Tribune PSG sur France Bleu, Nicolas Olivier.
Salut à tous, bienvenue dans Tribune PSG chaque lundi, votre émission de débat sur le Paris Saint-Germain. Et on en a des choses à analyser, à décrypter aujourd'hui, lendemain de Classico, lendemain de victoire à Marseille. Pas si facile que ça, hein, mais les circonstances étaient particulières avec beaucoup d'absents, des blessés, un suspendu, un forfait de dernière minute, Cavani. Et la surprise du chef, Mbappé et Rabiot sur le banc, mesure disciplinaire. Après la calinothérapie, voici Thomas Tuchel en père fouettard. Le résultat lui a donné raison, l'entraîneur parisien est le grand gagnant de cette OM PSG. Pendant une heure, on va parler de tout ça, mais aussi de Naples et de l'horizon européen qui s'est légèrement bouché la semaine dernière. Doit-on commencer à se projeter vers l'Europa League? Je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être le vrai choc de la semaine. Faut-il avoir peur de Lille qui arrive vendredi au Parc? Nos débatteurs arrivent dans 30 secondes. C'est juste après le petit résumé de cette victoire 2-0 au Vélodrome. Et Mbappé qui touche son premier ballon, il est tout seul, il prend de vitesse sans aucun problème, il frappe et le but de Kylian Mbappé. À peine deux minutes après son entrée en jeu, Kylian Mbappé qui vient crucifier Steve Mandanda. Il a pris de vitesse sans aucun problème, son vis-à-vis de la défense marseillaise. Ça fait 1-0 pour le PSG, 65e, le but de Kylian Mbappé.
C'est de la surface de réparation et Neymar qui peut partir, il est quasiment tout seul avec Mbappé aux avant-postes. Neymar a poursuivi son effort, Neymar à l'entrée de la surface, Neymar qui ajuste. La frappe est trop croisée. Oh, et le but! Et le but de Draxler qui avait suivi au deuxième poteau. Draxler qui double la mise.
Et bonsoir à tous, on accueille toute l'équipe de Tribune. Bonsoir Émilie, Stéphane, Joss, Joël et Sébastien. Installez-vous.
On est bien, il fait meilleur ici. Hein,
ça, clairement.
Ça va bien, Émilie, la présidente de Choupo-Motim n'est pas trop déçue.
J'ai morflé hier soir, mais je reste quand même fière de lui.
Toi aussi, tu croyais au doublé. Hein? Toi aussi, tu croyais au doublé.
Non, moi, je croyais juste que ça allait mieux se passer. Je n'avais pas l'espoir du doublé, mais bon.
On partage l'émission, bien sûr. Tribune PSG, vous réagissez. Et puis, Émilie vous surveille, elle relaiera tous vos messages.
Exactement.
Comme d'habitude. Autour de la table, le pilier, Stéphane Bitton, foot123.fr.
Bonsoir.
Et ton regard sur le PSG chaque matin de la semaine, 8h10.
Exactement.
Sur France Bleu Paris, un occasionnel comme moi, c'est Joël Spindel de l'équipe de France Bleu. Salut, Joël.
Salut tout le monde.
Un vrai spécialiste, un amoureux.
Un amoureux, voilà.
Du PSG, Joss, notre youtubeur sport et rap.
Salut.
J'adore.
C'est un peu résumé.
Salut.
Mais bon.
Bah non, mais moi j'ai la pêche, je suis de bonne humeur. Ouais. On a fait une prestation mitigée hier, mais on est sur du 11 sur 11, donc parfait. Voilà.
Et bientôt les 500 000 abonnés sur ta chaîne YouTube.
Ouais, t'as l'œil.
Il a l'œil.
Je vais
me renseigner un petit peu.
Ah, c'est gentil, ouais. Bientôt.
Et notre partenaire le Parisien est avec nous, Sébastien Nieto.
Salut. Bonsoir. Salut à tous.
Le journaliste du Parisien pour décrypter ce soir ce match de Marseille. Un classico un petit peu différent de d'habitude. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à analyser ce soir. Stéphane Bitton, cet OM PSG était spécial. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que c'était plutôt un bon, un mauvais classico selon vous?
Bah, moi, devant ma télé, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Donc je dirais que c'est un bon classico. D'abord, on ne s'est pas ennuyé. Ensuite, il y avait la victoire au bout. Donc ça, c'est le principal. Après, effectivement, j'avoue qu'au coup d'envoi, j'ai été surpris, plus que surpris. J'ai pas tout de suite compris ce qui se passait.
Nous non plus.
J'ai pensé que c'était d'abord une punition pour le match face à Naples.
Ça aurait pu.
C'était le réflexe. C'était de se dire que les deux avaient pas été bons et on attend plus d'eux. Donc, voilà pourquoi on les avait mis au piquet. Et puis, pendant le match, les réseaux sociaux se sont enflammés et on a fini par comprendre qu'apparemment, les deux garçons étaient arrivés en retard à la causerie, qui a fait que, Tuchel sort renforcé parce qu'il y a eu la victoire. Après, il va falloir voir comment ça va se gérer dans le vestiaire du PSG, cette histoire. Voilà.
Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Hein, Tuchel, évidemment, ça a fait l'objet d'une partie à part entière, d'un chapitre de Tribune PSG, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ses choix hier de Thomas Tuchel. Mais sur le plan sportif, déjà, bon, évidemment, les 3 points, la 11e victoire, le record égalé de Tottenham. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? Un match plutôt équilibré, quand même, finalement.
Ouais, équilibré, mais quand même, enfin voilà, le PSG a quand même gagné ce match en à peu près 5 minutes 30 hier soir. Dès que Mbappé est rentré, évidemment, ça a fait la différence.
Ah,
Mbappé piqué,
suite,
même si on l'a su après. Non, mais moi j'ai trouvé un Marseille extrêmement faible, qui a eu aucune occasion franche, à part le coup franc de Payet.
C'est difficile. Hein.
Voilà, ouais, c'est la composition de Marseille était très étonnante aussi, autant que celle du PSG. Ouais. Et voilà, donc un match que j'ai globalement trouvé très faible, moi, un classico très faible par rapport à ceux des années précédentes.
Surtout la première période hein, qui était ouais. vraiment pour le coup.
Donc globalement, je trouvais ça facile quoi, pour Paris.
Au Parc des Princes, l'année dernière, ça n'avait pas été plus.
Non, mais Garcia joue toujours pour ne pas perdre contre Paris, ouais, il joue jamais pour gagner.
C'est fatigant en fait.
À la fin, bon, il ne gagne pas, c'est normal. Enfin, quand on ne veut pas gagner, on ne gagne pas. Déjà, et en plus, Paris, on a l'impression que quelle que soit l'équipe qu'ils alignent, des jeunes, des pas jeunes, des types qui jouent à droite, qui ne jouent jamais à droite, Ensoki, on le met au milieu alors qu'il joue d'habitude à gauche, enfin au milieu de la défense, je veux dire, qui a joué souvent. Arrière-gauche, quelle que soit l'équipe qu'il met avec des gars qui sont pas forcément complémentaires, bah, malgré tout, il gagne.
Mais on a frôlé l'accident quand même. Hein.
Bah, l'accident avec cette équipe-là.
86e minute, cette action très litigieuse, une faute sifflée.
C'est pas litigieux, qui l'arbitre pas. Siffle, tout le monde s'arrête de jouer, il y a but, mais il n'y a aucun débat. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de débat sur cette action parce que je veux bien comprendre les critiques marseillaises, mais l'arbitre siffle, tout le monde s'arrête de jouer.
Oui,
après, il y a un but, bon, ouais. bah voilà, VAR ou pas VAR, de toute façon, le but aurait été refusé, donc c'est trop tard.
Oui, c'est trop tard. Ouais,
sur le but en question, quand même si les joueurs se sont arrêtés, Mitroglou était tout seul. Hein. Il y avait but dans tous les cas. S'il y a pas faute de siffler, oui. Il y a but pour Marseille. On peut parler de débat par rapport à ça, mais de toute façon à la fin ça fait quand même deux buts à zéro et en soi Marseille n'a pas été super dangereux hier.
Non,
c'est sûr. Non, mais c'est ça. Ouais. On peut pas se rattacher à une seule action parce qu'ils ont rien fait pour gagner ce match.
Donc
ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ah,
c'est,
voilà.
Ici c'est pas très but de Marseille, mais si on devait encore parler une fois de plus du match de Thauvin dans un gros match, c'est quand même assez impressionnant. Enfin voilà, on est encore hyper déçu de Thauvin. On est hyper déçu de Payet. Enfin, franchement, ce classico était vraiment pas très.
Payet avançante, ça a non-sens. Enfin.
Ouais. Mais je me suis quand même pas ennuyé parce que justement il y avait 0-0 longtemps et que j'espérais.
Ouais, qu'on attendait le moment.
Tout à fait. Donc j'étais encore sous pression.
Avant de parler des choix de Tuchel, qui a marqué des points selon vous, qui a déçu hier soir? Peut-être on peut parler de Ensoki, hein, très costaud, le Titi d'ailleurs.
Bah, Ensoki, il a marqué énormément de points hier et on s'est même posé la question de pourquoi aller chercher Kjaer à 37 millions. On aurait peut-être dû rester sur lui et investir sur un milieu de terrain type Nzonzi, Vidal, qui était à ces prix-là. Mais sinon, même Kjaer a aussi à faire un
très bon match. Il est de mieux
en mieux,
Kjaer. Quelques matchs, il est de mieux en mieux.
Je veux dire, dans l'ensemble, la défense a clairement fait un bon match.
Et Marquinhos, impérial aussi. Émilie ?
Alors, ça réagit par rapport, évidemment, au classico et à ce que vous dites. Donc, il y a Joanny qui nous dit un classico mi-figue, mi-raisin, mais porteur de nombreux enseignements. Et on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai. Dominique nous dit pas un beau match, mais dès qu'on gagne au Vélodrome, de toute façon, c'est bon. Benjamin qui renchérit, quand on gagne, ce n'est qu'un bon classico. Olivier souligne la très belle performance de Ensoki. David aussi, le meilleur hier, c'était Ensoki. Bébel nous dit Ensoki magnifique. Et Jean-Michel souligne quand même que Mbappé était trop fort. Et je salue Zlatom qui nous suit de Tahiti.
Wow. Bonjour à Tahiti.
D'autres joueurs vous ont marqué, Stéphane?
Oui, alors moi j'ai remarqué quand même que les deux plus mauvais du Paris Saint-Germain, c'était tout simplement les deux arrivés sur cette fin de mercato finalement. C'est Bernat et Choupo-Moting. Donc on s'aperçoit qu'ils n'ont pas renforcé l'équipe en tous les cas. Ils vont servir parce qu'effectivement une saison c'est long et il y a besoin de faire tourner les effectifs. Mais clairement, ces deux-là sont un cran en dessous. En tous les cas, hier soir, sur le match qu'on a vu, bah, effectivement, Bernat et Choupo-Moting,
il a moins de matchs dans les pattes, quand même, par rapport à Bernat. J'essaye de lui trouver des excuses.
Non, mais c'est vrai en soi. Moi, je trouve qu'on pourrait parler de Draxler, qui, pour moi.
Ah, il a pas été mal, j'ai trouvé.
Oh, il était assez transparent, quand même.
Sa prestation, elle est catastrophique. Des grosses fautes sur les Marseillais. Outre son but, son match, il est.
Il pèse pas assez, Draxler.
Pour un joueur de son calibre, c'est pas possible de livrer des prestations comme ça.
Je suis d'accord avec toi, mais dire qu'il a été mauvais.
Non, on attend un peu plus de création d'un joueur comme ça. Je pense que c'est ce qui a manqué hier. Neymar, il était quand même très seul. C'est le seul qui a un peu tenté, je trouve. Surtout en première mi-temps.
Puis, de toute façon, il allait chercher les ballons trop bas, Neymar. Ouais, il partait de trop loin.
La création, c'était très compliqué.
Il est devenu défenseur, lui. Il s'y est mis, finalement.
Ouais, voilà.
Il aura fallu attendre un an.
Il fallait bien un match dans lequel il défend.
Puis Neymar, à chaque fois qu'il prenait le ballon, ils étaient 3 sur lui. C'était compliqué.
Oui, aussi,
hein.
c'était
dur. Il a fait son match, Neymar, quand même.
Il a fait son match.
Mais à travers Ensoki, on peut quand même remarquer on parle des stars, etc. Mais la formation parisienne, enfin, les joueurs qu'ils forment, c'est quand même remarquable. Tous les jeunes qui sortent, que ça soit la Ensoki, mais on a aussi évidemment Kimpembe, Areola, Rabiot, Diaby. La formation est très forte quand même. Avec les jeunes, ils arrivent toujours à s'en sortir. À chaque fois qu'ils jouent, ils ne déçoivent pas. Et quelle que soit l'équipe que Tuchel met sur le terrain, eh ben ils s'en sortent. Même quand ils sont même quand ils jouent pas souvent ensemble comme hier soir, l'équipe était improbable, ça ressemblait à rien du tout, mais même là, ils gagnent 2-0 à Marseille, quoi.
D'ailleurs, c'est un faux, je regardais pendant le match, je regardais le positionnement des joueurs, c'est un faux 3-5 et des poussières. Finalement, tu t'aperçois que les deux latéraux, même si sur la feuille de match, ils sont au milieu de terrain, effectivement, c'était plutôt une défense à 5. En tous les cas, en première période.
Ouais, alors certains ont parlé de 3-3-3-1, un schéma que j'avais jamais entendu.
Non, mais il jouait bas, donc ouais. En effet, c'était 5 derrière, comme dit.
Tactiquement, ouais. C'est quand même difficilement lisible, moi, je trouve. Enfin, il est imprévisible quand
le
même, Thomas
Tuchel. Le principal, c'est l'animation, disent les grands entraîneurs. Donc, finalement,
tous les coachs
pas figé, en fait.
Non, oui, évidemment. Mais
c'est un peu dangereux.
Ce qui est vrai, d'ailleurs.
C'est un peu dangereux parce qu'on a l'impression qu'il n'y a toujours pas de système type. C'est-à-dire qu'on va jouer Naples dans un match crucial et on ne sait toujours pas quel est le système qu'il faut employer vraiment. Ouais. Et ça, c'est quand même dangereux de changer de joueur et de système continuellement. Mmh. Moi, ça me fait très peur.
Ça réagit, Émilie ?
Ça réagit, oui. Il y a David qui nous dit il manque vraiment un 6 au PSG et d'autres, effectivement, le rejoignent sur ce constat. Et on l'a aussi beaucoup entendu hier. Il y a Fatima qui nous dit Kurzawa nous manque. Ça, on n'en parle plus.
Non, moi.
Il y en a qui manquent. Voilà.
Pas trop, non.
Et ni Kurzawa, ni Daniel Alves. Ça va.
Et il y a Laurent qui nous dit sinon, bravo à Marquinhos pour sa roublardise. Il a tout compris. Hashtag Sergio Ramos.
Allez, ça nous amène.
Un peu de vice, ça fait du bien, on en réclame depuis tellement d'années, bien sûr.
Non, mais Marquinhos était à fond quand même.
Ouais, il était super. Ouais, Marquinhos,
capitaine
qui a tenu son rang.
Oui, exactement.
Ça nous emmène à notre gros débat sur Thomas Tuchel qui a vraiment frappé un grand coup hier soir au Vélodrome avec cette sanction disciplinaire. Il a employé ce terme lors de sa conférence d'après-match. L'entraîneur allemand qui se prive donc de Rabiot et Mbappé au coup d'envoi parce qu'ils sont arrivés en retard à la causerie d'avant-match. Alors, il l'avait déjà fait, ce genre de choses, quand il était notamment
en Allemagne. Ça, c'était pas très bien fini.
Il avait écarté Aubameyang lors d'un gros match, je crois.
Ouais.
Jusqu'ici, il avait plutôt été adepte, on le disait, de calinothérapie, un petit peu la carotte. Cette fois-ci, il y a eu le bâton.
On savait bien, il a un passé quand même, ce garçon. Donc, effectivement, il a compris. Il a compris. Alors, je crois qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il a eu raison, puisque le Paris Saint-Germain a gagné. Quand on gagne, on a toujours raison. Après, il faut voir les conséquences, parce que les conséquences peuvent être grandes. D'abord, il a pris des risques. Se passer, admettons de Rabiot de côté, mais se passer d'Mbappé, qui est quand même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison.
En l'absence de Cavani, en plus.
Ouais. Un joueur décisif, en l'absence de Cavani, c'est incompréhensible. Alors, je sais pas avec combien de temps il est arrivé en retard à la causerie, si c'est 2 minutes. Une bonne dizaine de minutes. Bon, alors c'est effectivement trop. En tous les cas, c'était une sanction. Pour un match comme ça, c'était risqué. Imaginez seulement que le Paris Saint-Germain ne soit pas imposé. En plus,
ça aurait rien changé.
Mais c'est une demi-sanction. Parce qu'en fait, il fait rentrer Mbappé.
Oui, parce qu'il est obligé.
Et c'est en plus lui qui marque.
Mais on se plaignait l'année dernière que Emery n'avait aucune autorité, que le club doit respecter, enfin, qu'il y a une institution qu'on doit respecter. Le club. Moi, je trouve ça super bien ce qu'il a fait, surtout que les vraies raisons du retard de Mbappé et Rabiot, c'est parce qu'il regardait Barça-Real. Donc, il y a un gros problème.
C'est
aussi.
L'info, ça.
C'est une info qui est sortie sur les réseaux sociaux.
Il regarde ce qu'il faut faire les soirs de Coupe d'Europe.
Ouais, mais on a quand même un gros match à jouer.
Fallait pas regarder côté Madrid.
Enfin, moi je trouve ça bien ce qu'il a fait. C'est un message qu'il envoie aussi au vestiaire. C'est toujours lui le patron. C'est lui qui décide. Et faut respecter l'institution du PSG. Il y avait un gros match à jouer le soir même. On regarde pas Barça rien.
C'est surtout parce qu'il fait des câlins par ailleurs qu'il peut se permettre ce genre de choses. Justement, c'est pas contradictoire. C'est parce qu'il a réussi à se les mettre dans la poche, qui peut dire maintenant ça suffit, vous êtes super, je suis bien avec vous, mais faut pas faire n'importe quoi.
Ouais, exactement. Il y avait un relâchement peut-être ces dernières semaines.
Je pense qu'en effet,
attention, il a intérêt maintenant à faire ça avec tout le monde. Absolument tout le monde.
Non, mais c'est le fait qu'il le fait avec tout le monde.
Je ne vais surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Je dis juste qu'à partir de maintenant, le premier qui arrive en retard, il doit avoir la même sanction. On le saura pas.
Faut rappeler que c'était pas les premiers retards, a priori. Il l'a dit lui-même, c'était pas les premiers retards.
Il l'a sous-entendu.
Il n'y avait pas que ces deux-là.
Il recadre Mbappé, c'est comme pas rien. C'est pas Nsoki, c'est Mbappé quand même. Donc il a pris ses responsabilités.
Là où je rejoins Stéphane sur la demi-sanction, c'est que finalement le but d'Mbappé, sa rentrée, son accélération, son but, ça se retourne un poil contre Tuchel. Parce que même à la fin du match, l'interview d'Mbappé, quand Mbappé, voilà, il est au micro de Canal, il dit ce PSG a besoin de grands leaders, il parle de lui évidemment.
Bien sûr,
et il s'est mis dans la position de leader. Ça se retourne un poil contre lui le scénario parce que Mbappé montre en gros, bah voilà,
tu m'as sanctionné, mais t'as quand même besoin de moi pour gagner des matchs.
C'est un joueur de l'effectif, on en a besoin, mais on a besoin d'un joueur concentré et qui respecte les règles. Hier, j'entendais dans des interviews, fallait pas le faire jouer sur le banc, fallait le sanctionner financièrement. Mais non, il gagne tellement d'argent, mais il s'en fout que tu le retires 10, 20, 50, même 100 000. Par contre, tu le fais débuter sur le banc au Vélodrome dans un match où il a attendu.
Là, ça l'a piqué.
Et il rentre, il te met un but. Voilà, au bout de deux balles.
À sa tête, tout au long de... Pendant la première période, l'échauffement et même au moment où il rentre,
ouais, il était pas content. Mais t'as vu, c'est Buffon qui vient et qui lui fait tout un discours avant. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Cette scène était vraiment dingue super. Avec Buffon qui vient coaching, et qui lui parle vraiment comme un père.
Il lui regarde dans les yeux. Ouais. Là, c'est terrible.
Et l'autre, il boude. Il fait. Enfin, vraiment, c'était une scène. Peut-être l'image de la soirée, l'une des images en tout cas. On a justement posé la question, Émilie, aux internautes, aux fans de Tribune et du PSG. Et le résultat est sans appel.
Ah ouais, là, on est plutôt fiers là.
La question était
Tourelle a-t-il eu raison de sanctionner Mbappé et Rabiot en les laissant sur le banc au coup d'envoi? On vous a interviewé sur Twitter et Facebook, vous avez été plus de 900 à nous répondre et à 95% la réponse est oui, mais on a aussi des arguments. Donc, par exemple, il y a Jean-François qui nous dit oui, les joueurs ne sont pas au-dessus du club, ils doivent respecter les horaires, ce sont des pros et ce n'était pas la première fois que ça arrivait, je suis pour la sanction. Cathy nous dit oui, il a raison, c'est se faire respecter, il a dit lui-même qu'il n'aime pas en arriver là. Bebel nous dit, Tourelle, est le coach qu'il nous fallait pour la sanction, il a eu raison. Et Mystère nous dit, avec Tourelle, le changement, c'est maintenant. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec la sanction et qui nous expliquent, Baptiste nous explique, on peut dire que le résultat lui donne raison, mais la sanction devrait rester individuelle, car ici, elle aurait pu pénaliser l'équipe. Mauvaise gestion d'après moi. Et Hervé nous dit, on aurait pu perdre avec cette connerie.
Et justement, Émilie, Tourelle, c'est ton coup de cœur hein, perso du week-end.
Oui, moi, ce que j'ai aimé, bah, pour revenir sur ce que tu disais, c'est aussi la déclaration qu'il a faite, lui, en fin de match, où tu le sens, en tout cas, moi, je l'ai senti sincère, où il explique qu'effectivement, ce soir, je suis triste, je n'aime pas jouer sans Kylian, c'était une situation disciplinaire, nous devions faire cela. Et oui, c'est une décision de coach, c'est une décision de meneur d'homme. Et moi, j'aime ce coach qui sort d'un classico, qui l'a remporté, mais qui est triste parce qu'effectivement, voilà, c'est pas, il a dit, c'est pas sa journée, quoi. C'est pas sa journée préférée. Donc, moi, j'aime bien ce bonhomme.
Oui, il a même déclaré être préoccupé par cette situation. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui se répète assez souvent. Et il a bien fait de sanctionner, je trouve.
De toute façon, c'est un club où il faut mettre de la poigne à un moment donné. Ça fait trop longtemps qu'on attend que quelqu'un prenne la main et dirige le club. Donc, comme c'est pas Nasser qui le fait,
un gros changement
le fasse,
après Emery et Blanc. Enfin, l'institution PSG au-dessus des joueurs.
Pour redonner un peu de crédit à Blanc, il avait déjà lui-même sanctionné Rabiot lors d'un retard avant la finale de la Coupe de France 2014. Et Rabiot avait été exclu du match exprès pour exactement la même raison. Il était arrivé en retard avant
mais
de prendre le bus.
Aurier, Périscope.
En réalité, ça fait son chemin à l'histoire.
Donc là, en tout cas,
4 ans après,
il est toujours en retard.
Le PSG, ça y est, un vrai manager, un homme fort qui se pose.
Tout est bien, tout ce qu'il a fait hier, finalement, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y avait effectivement la victoire au bout. Après, on va pas le juger. On va juger sa saison sur quoi? Sur son match à Naples la semaine prochaine. Pas sur le titre de champion, c'est déjà fait. Sa capacité à garder les coupes ou pas, on va pas jouer les blasés. Plus ils iront loin et mieux ce sera. Mais on va le juger surtout sur, imaginez, qu'il y ait la calinothérapie, les sanctions, enfin, mais qui tiennent le club, et que Paris se trouve en Ligue Europa dans un mois.
Mais ça n'a aucun rapport.
Enfin,
dans tous les cas, un joueur qui commet une faute, il faut bien qu'il soit sanctionné, tonton.
Oui,
qui est la Ligue des Champions.
On jugera Tourelle, on le jugera pas sur ses sanctions.
On le jugera, mais les gens qui le jugeront sur
ses résultats.
Les gens qui le jugeront sur ça, c'est des gens qui connaissent rien au foot. Un joueur fait une faute, faut le sanctionner, c'est logique, en fait.
Mais tu te rappelles de quoi d'un entraîneur? Tu te rappelles des sanctions qu'il a laissées ou des trophées qu'il a remportés?
Bien sûr, mais avoir sanctionné Mbappé, c'est pas ça qui va non plus le faire mal jouer en Ligue des Champions.
Non, je dis juste que on le jugera d'abord et avant tout sur ses résultats, et particulièrement sur ses résultats en Ligue des Champions, qui pour l'instant ne sont pas bons.
Oui,
voilà, on a trouvé un homme à poigne, on a trouvé l'homme qui fait respecter l'institution, très bien, super, il en fallait un, sauf que tout sera balayé s'il n'y a pas une victoire à Naples ou s'il n'y a pas une qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Enfin, on peut quand même noter qu'on a enfin quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui prend des décisions. Indépendamment de ce qu'ils vont faire en Coupe d'Europe.
Évidemment.
Je pense que voilà, c'est important quand même,
bien
quoi
sûr.
Qu'il arrive.
Ah, oui.
Tout à fait. Un mot sur Adrien Rabiot quand même, parce que voilà,
il y a
on est obligé de te poser la question. Il y a eu quand même le match, on va en parler plus tard, mais Naples, il faisait quand même partie des pires.
Bah, oui, tout à fait.
Et puis il y a l'extra sportif maintenant, on apprend qu'il arrive en retard, que c'est peut-être pas la première fois, il est sanctionné.
Qu'il refuse de s'entraîner aussi.
Il est resté au vestiaire pendant les
choses. Ce garçon cumule les conneries, quoi. C'est comme ça qu'il faut dire. Alors voilà, il arrive en retard, c'est pas bien. Faut pas arriver en retard. Il refuse d'être remplaçant des remplaçants à la Coupe du Monde, c'est pas bien. Il écrit une lettre au sélectionneur, c'est pas bien.
Il refuse de prolonger.
Quand c'est une histoire de business et trucs, on sait pas trop ce que.
Tergiverse, en tout cas.
Voilà. Bon, jusque là, il a eu une attitude plutôt positive. Il s'est pas répandu dans les médias, mais il a cumulé quelques fautes. Je pense qu'il est mal conseillé, tout simplement.
Ouais. Enfin, à son âge, on peut aussi faire fi des conseils. Enfin, ce sont des adultes maintenant.
Oui.
C'est un type qui prend ses responsabilités, justement. Rabiot, on dit qu'il a du caractère, qu'il s'impose.
Oui, enfin, on est là toujours aussi, conseillé.
Là aussi, il peut les prendre. Il est conseillé, mais c'est une forte tête, Rabiot. Donc, il peut aussi sa forte tête envers ses conseillers.
Mais ça peut être une forte tête et à la fois écouter quand même de temps en temps ce qu'on lui conseille. Et s'il écoute pas, à mon avis, ça lui jouera des tours. Il peut passer malgré toutes ses qualités.
Mais ils écoutent trop, Stéphane, justement.
Je sais pas s'il les écoute trop.
Il est mal conseillé, donc il les écoute trop.
Mais je dis que justement, il écoute pas assez les conseils qu'on devrait lui donner, les conseils positifs.
Rabiot, c'est peut-être en train aussi de se transformer en un demi-échec pour Thomas Tuchel, parce que depuis le début de saison, on le sentait quand même sur une pente ascendante, Rabiot, sur quelques matchs, notamment à Nice, où il fait un match excellent. Enfin voilà, il y a eu quelques bons exemples. Et là, voilà, après Naples, déjà, il y a eu Liverpool, il y a eu Naples. Là, il y a eu le petit incident d'hier. Est-ce que voilà, c'est pas en train d'un peu tourner? Il y a l'histoire de sa prolongation qui est vraiment pas claire. Voilà, rien n'est signé. Ça a l'air très compliqué, ce cas Rabiot, et ça va être un vrai challenge pour Tuchel et pour tout le club.
D'ici un mois et demi, on saura.
Hier, son entrée, bon, il a pas joué beaucoup. C'est difficile à juger.
C'est difficile à juger. Non, il cumule les conneries en ce moment. Ça, c'est clair.
Rabiot, il a besoin d'avoir un vrai 6 à côté de lui. Et parce que il peut jouer son jeu, il peut se projeter, etc. Quand il avait Thiago Motta, il le faisait très bien. Là, c'est lui qui fait office un peu de 6. Il n'y a pas vraiment de 6. Il est avec Verratti. On ne sait pas trop comment ils jouent tous les deux. Donc, je pense que ça, il en pâtit quand même, Rabiot.
Son jeu a clairement évolué, mais dans le mauvais sens, je trouve. Il ralentit le jeu. Il fait trop de touches de balle. Il y a des solutions super simples, des fois, qui s'offrent à lui. Il a un tic qui fait qu'il tourne à chaque fois sur lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Oui. Dès qu'il a la balle, il tourne sur lui. Je ne sais pas pourquoi.
Mais il avait tendance à corriger ce petit défaut là. Moi, je trouve sur pas mal de matchs. Et là, c'est vrai que ça retombe là. C'est vraiment dommage parce qu'on
voit sur Adrien Rabiot.
Ouais, il y a Benjamin qui nous dit Rabiot est sur courant alternatif. Et c'est vrai, quand on regarde le début de saison, à la rigueur, il jouait pas comme ça. Enfin, en tout cas, il était pas comme ça. Ce garçon n'est pas assez recadré, trop câliné au PSG. Il manque de professionnalisme.
Mais en même temps, on peut pas. Là, il est en position de force. Donc on peut pas non plus avoir un rapport de force avec lui. S'il prolonge pas, ce serait une énorme perte pour le PSG.
Parce que c'est un titi aussi. Enfin, c'est important. Côté-là est important aussi, à mon sens.
Je pense que s'il s'en va, ce sera un gâchis pour tout le monde parce qu'il y avait tout pour réussir. Lui est plutôt un bon footballeur et Paris l'aimait bien. Et je crois qu'il aime bien Paris. Et peut-être que ça va accoucher de rien du tout et qu'il va se barrer dans un autre club pour zéro en plus, ce qui sera financièrement.
Faut peut-être pas dramatiser là comme ça. Moi, je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça. Quand même, là, on est en train de parler d'un vrai gâchis. C'est pas un vrai gâchis, Rabiot.
Ce sera un gâchis s'il quittait le Paris
Saint-Germain. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, il n'est pas encore perdu, je pense.
Non. J'ai dit que
moi, je vois pas dans quel club il peut être titulaire. Dans aucun top club.
Mais si, si tu fais jouer relayeur avec un 6 à côté, un vrai 6, tu vas voir.
Dis-moi un top
club.
Il estime qu'il est titulaire.
En tant qu'au Real Madrid, il n'a pas sa place. À Barça, il n'a pas sa place.
Si, en tant que relayeur, si. Il a un physique hors du commun, il est puissant.
Je te dis que lui, s'estimerait titulaire dans n'importe quel club.
Vous l'auriez titulaire au Real ou
si c'est le Rabiot du PSG.
Tu ne peux pas savoir, il serait titulaire en
Italie. Quand il fait des grands matchs, il a peu d'équivalent. Non, franchement, quand il fait des grands matchs, il a peu d'équivalent, Rabiot.
Parce que là, contre Naples, quand même, vous avez vu cette vidéo.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu,
vous avez vu cette vidéo là du match contre Naples où on voit que Rabiot, pendant 40 secondes, il disparaît de l'écran. Alors c'est un plan large. Et on le voit qui marche. Ouais. C'était assez frappant.
Aucun repli défensif, aucun effort, aucune combativité. Il est titulaire nulle part.
Tout
est
pas seul ce soir.
Non, mais le problème de ces mecs-là, c'est tout est dans la tête. C'est-à-dire qu'il a la capacité à être bon. Il l'a déjà montré. Il peut apporter de la verticalité au jeu et tout. Ouais. Donc, c'est un bon joueur de foot. Il s'est retrouvé en équipe nationale. Il a pas bien réussi quand il était sous le maillot bleu. Mais enfin, si tous les clubs européens ou de grands clubs européens s'intéressent à lui, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un vrai potentiel. Moi, ça m'embêterait qu'il réussisse ou qu'il éclate ailleurs qu'au Paris Saint-Germain. Parce qu'il y avait tout. Et c'est pour ça que je parle de gâchis. C'est-à-dire que ce serait quand même terrible de le voir réussir ailleurs, alors qu'il y avait tout ici pour que ça se passe bien.
Tonton Steph, toujours beaucoup de choses à dire sur Adrien Rabiot, le chouchou.
Je suis de près.
Ouais. Il a bien raison.
Conseille-le un peu.
Edinson Cavani, quand même, cette douleur à la cuisse, à l'absence hier soir, il vient même pas dans le groupe. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, surtout qu'en ce moment, ça va pas fort?
Je pense qu'il faut s'inquiéter. Je me demande même si c'était pas diplomatique. Voilà, je le dis clairement. C'est-à-dire que ça me paraît quand même extrêmement bizarre, quoi. C'est-à-dire que, alors là, voilà, là, je le jette un pavé dans la mare.
On sait pas,
j'ai l'impression que ça se passe pas très bien pour lui et que c'est une façon de communiquer. On sait bien communiquer quand on a envie au Paris Saint-Germain. Et là, l'histoire du forfait, des douleurs, bon, c'est pas précis. Déjà que pour Thiago Silva, on a parlé de diplomatie. Là, pour Cavani, moi, je pense que, alors, j'en sais rien. Mais comme ça, à vue de nez, ça me paraît quand même un peu bizarre, dans un contexte où c'est très difficile pour lui. Lui, le montre sur son visage à chaque match, ça va pas. On s'aperçoit que ça va de mieux en mieux entre Mbappé et Neymar, et que ça va plus du tout avec ces deux-là.
Sébastien Nieto, du Parisien, sur Cavani.
Alors, on aimerait bien avoir des infos, déjà. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup autour de Cavani. Non, mais après, est-ce que c'est diplomatique? J'en sais rien. Ce qui est vrai, c'est qu'il traverse une mauvaise passe sportive. Ça c'est le cas, on l'a vu sur le terrain, c'est difficile pour lui, il a du mal à marquer, voilà, il s'entend pas avec ses coéquipiers. Mais bon, est-ce que c'est définitivement terminé? J'espère pas pour le PSG, pas pour lui.
Et a-t-il le soutien de son entraîneur?
C'est pas tant qu'il a pas le soutien, c'est que je pense que Tourelle cherche la meilleure formule. Et c'est vrai qu'a priori, en ce moment, la meilleure formule, c'est Mbappé devant et Neymar derrière. Donc, il est confronté à un vrai dilemme.
Je pense qu'il est confronté à un vrai dilemme.
Oui, mais il le sort souvent.
Jusqu'au PSG Lyon, la meilleure formule, c'était quand même les quatre fantastiques.
Oui, parce que, voilà. Mais c'était jusqu'à Lyon.
Mais Cavani, je pense pas que ce soit perdu. Parce que quand il jouait avec Zlatan, on l'a pensé perdu aussi. Parce que Zlatan lui filait pas un ballon. Et pareil, il était borduré. Voilà. Et il s'en est quand même sorti. Il continue à marquer 30 buts par saison.
Il s'en est sorti, mais il a vraiment éclaté quand Zlatan est parti.
Il faut aussi trouver la solution pour le remotiver.
Mais il marquait quand même des buts, Stéphane. Ouais, mais là, je pense que sa blessure en Coupe du Monde, ça joue quand même beaucoup. Je pense à un gars qui n'était jamais blessé, Cavani, jamais blessé. C'est un rock. Là, je pense que ça a quand même pas mal perturbé cette blessure. Et peut-être qu'il a peut-être du mal à revenir parce qu'il n'est pas habitué justement à ça.
Il sera aligné contre Naples, moi, je pense. À Naples, il connaît le terrain. Ça
alors, vendredi
logique.
Déjà. Normalement, il est
alors, voilà, il y a le
très concrètement, on nous dit qu'il sera là vendredi, qu'il sera contre Lille et titulaire, normalement.
Et puis Naples, c'est probable, à mon avis, un peu comme pour Buffon, évidemment.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi pour lui cette année. C'est qu'avant, dans le vestiaire, il y avait du soutien. Il y avait Pastore, il y avait Lavezzi, il y avait des compatriotes un petit peu qui étaient très solidaires de lui. Ouais. Voilà. On parle de clan, mais il ne faut pas parler de clan, mais il y a quand même des affinités entre les joueurs. Et aujourd'hui, Cavani, dans le vestiaire, il n'y a plus personne aussi pour lui redonner cette envie et cette motivation. Donc, ouais, j'ai l'impression que ça ne sent pas très bon.
Émilie ?
Il y a Stéphane Pereira qui nous suit et qui est déjà venu dans l'émission, qu'on salue du coup, et qui nous dit, attention, notez, ça sent le départ de Cavani pour le Real cet hiver.
C'est une vraie question. Est-ce que le PSG serait capable de vendre Cavani cet hiver pour ramasser de l'argent et
de
s'acheter un numéro 6
ou de l'échanger ?
Contre qui?
Contre qui
c'est un peu contre un joueur de Manchester.
Moi, les échanges, j'y crois pas trop. Qui mais de manière générale.
Ah, réfléchis.
Qui ça? Pépé.
De quoi? Paul Pogba.
Paul Pogba.
Ouais, exactement.
Ouais. Ouais, ce serait...
C'est de source interne au club. Il y a beaucoup d'échanges en ce moment entre le Paris Saint-Germain et Paul Pogba.
Pogba, c'est quoi son poste? C'est toujours pareil.
C'est pas ainsi. Je suis d'accord.
Voilà.
Ouais, moi, mais je préfère. Il y a beaucoup d'échanges entre ce garçon et le club.
On n'est pas un mauvais recrutement prêt. Hein. On peut prendre Pogba.
Et puisqu'on est dans le foot européen. Alors on va parler de cette Ligue des Champions avec la situation du PSG qui se complique, hein, toujours troisième du groupe, légèrement distancé, même si c'est pas encore plié, mais il va falloir gagner à Naples, sinon.
Ah,
voire pire.
Ah,
mais on va la gagner la Ligue Europa.
On peut pas être quatrième quand même.
L'étoile rouge de côté.
L'étoile rouge,
voilà. Donc il y a une troisième.
Quatrième.
De toute façon, depuis le début, hein, on a dit trois équipes pour deux places. Pour l'instant, c'est le parcours d'une équipe qui va pas se qualifier. Alors, j'ai dit pour l'instant, chaque mot compte. Mais quand tu perds chez l'adversaire et que tu fais match nul à domicile face, on va compter, face aux deux équipes qui comptent dans cette poule, bah, tu as le parcours d'une équipe qui va plutôt en Ligue Europa plutôt qu'en huitième de finale de la Ligue des Champions. Tu ne peux rectifier le tir qu'en t'imposant à Naples. Mais voilà, et prendre là pour le coup. Alors après, mathématiquement, on peut effectivement imaginer
calculs,
que.
Faire un nul.
Enfin, bon, faire si tu veux finir calculs. Confortable et pas avec la calculette en main, il y a une seule façon d'y arriver, c'est de gagner à Naples.
Quand on fait
le soir de Naples, après la rencontre, on y verra quand même beaucoup plus clair dans ce groupe.
Mais quand on essaie de comparer les saisons, c'est pas possible parce que c'est la première fois que Paris se retrouve avec deux équipes du même niveau qu'elle, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il fallait être dans les deux premiers, mais ils n'ont quand même pas de bol au tirage à chaque fois. Parce que là, ils sont avec le pire équipe du troisième chapeau, c'était Naples. On s'est échappé. Quand ils ont terminé le premier de leur groupe, ils se sont tapés le Real, qui était deuxième du leur. Enfin, ils n'ont quand même vraiment pas de chance. Et là, mais dans tous les groupes...
Là, tu parles comme un petit club, en fait.
Non.
Tu crois que le Real, le Barça, se posent des questions quand ils vont au tirage au sort, de savoir s'ils vont tomber... avoir un bon tirage ou un pas bon tirage.
Attends, si le Barça tombe sur Liverpool et Naples, je suis pas sûr qu'il soit tranquille. Hein.
Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est que tu dois pouvoir normalement sortir d'un groupe comme ça.
Non, ils peuvent évidemment qu'ils peuvent sortir, mais ils peuvent aussi ne pas sortir. Moi, s'ils sortent pas, c'est pas une énorme surprise.
Si, c'est un échec total.
Je vois pas. T'as le joueur le plus cher du monde.
Mais oui, c'est immense parce qu'on leur on les projette sur une victoire hypothétique. Là-dessus. Mais honnêtement, en valeur intrinsèque, ils ne sont pas tellement meilleurs que Liverpool ou Naples.
Mais quand tu compares avec les effectifs, quand comparer le match Liverpool-PSG, le milieu de terrain de Liverpool, c'était que des mecs qui venaient de seconde
Liverpool
zone.
Liverpool a fait finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière.
Oui, mais on ne peut pas espérer ne pas sortir d'une poule avec Neymar et Mbappé. Rien que ces deux joueurs-là, c'est pas possible.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas espérer. On peut. On doit le faire, mais ce n'est pas un énorme échec. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas un énorme échec.
Si
le PSG ne sort pas de cette poule, c'est une catastrophe industrielle.
Oui, c'est une catastrophe industrielle.
Risée de toute l'Europe.
Ce serait incroyable. Plus de ça.
Mais Emeric nous dit sur Facebook que clairement, on ne passera pas les poules. Hop.
Super pessimiste.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que là, ils se sont mis une énorme pression pour le match retour à Naples. Oui. Qu'il va falloir, je dirais, absolument gagner quasiment, même si le match est nul. Bon, comme tu disais, Stéphane, il faudra sortir les calculettes, ça pourrait être un peu compliqué. Mais, et puis, même au-delà du résultat, il va falloir faire enfin un bon match convaincant avec des champions. C'est exactement ce qu'on a répété ici dans plusieurs émissions, avant Liverpool, avant Naples. Il faut faire un bon match au milieu de terrain, devant, que les quatre devant sortent enfin une grande prestation en Ligue des Champions, voilà, qui nous impressionne, quoi, tout simplement, et qui envoient aussi un message à l'Europe.
Avec le recul, comment vous expliquez ce non-match contre Naples? Parce que c'est ça.
Il est incompréhensible. Moi, je ne comprends toujours pas la prestation du PSG contre Naples.
Les Napolitains, ils sont à bloc.
Impressionnant.
Tout simplement, une équipe qui a une envie plus grande que celle du PSG.
Et comment c'est possible?
Bah ouais, mais c'est ça le gros problème du PSG.
Comment c'est possible?
Le problème, il s'explique comme cela, comme je le dis à chaque fois. Tant que le PSG ne prendra pas son championnat au sérieux, le jouera pas à fond.
Mais là, ils le prennent au sérieux depuis le début de saison.
Non. Mais même le match.
Tu peux pas enchaîner 11 victoires et pas prendre ton championnat au sérieux. C'est pas possible.
Mais justement, t'as Neymar, Mbappé, t'es au-dessus de tout le monde. Hier, match face à Marseille, moi, j'ai trouvé que Marseille avait beaucoup plus d'envie que Paris. Et que finalement, c'était limite kiff-kiff parce que Marseille rentrait dans Paris. Mais au final, si tu
veux... Sur la première mi-temps.
Ils rentrent
dans le jeu. Il y a 65 000 spectateurs, c'est leur classico, c'est leur match de l'année.
Laisse-moi finir mon raisonnement. C'est ça le vrai problème du PSG. Dès que t'es une équipe qui te presse, qui est en bloc et qui a plus envie que toi, t'es en difficulté. Et puis c'est tout. Et en plus de ça, tout simplement, la Ligue 1, le PSG est au-dessus de la Ligue 1. Donc Marseille a tenu 60 minutes et ensuite, ça allait trop vite. Mais quand t'es face à Naples, face à Liverpool, des équipes qui jouent ce type de match tous les week-ends et qui arrivent en mode Ligue des Champions, ils ont juste à activer le mode au-dessus. Parce que Paris n'arrive pas.
Je te trouve sévère parce que justement, je l'ai trouvé, encore une fois, c'est comme pour Rabiot, je l'ai trouvé vraiment sur la pente ascendante, notamment, voilà, encore une fois, avec des victoires à Nice, même au Parc, où ils ont mis des 4, des 5-0. Ils ont joué 80-90 minutes en Ligue 1.
Sur les 4,
et je trouvais qu'ils étaient bons. Et là, je ne m'explique pas cette baisse d'intensité.
Stéphane
Bitton.
C'est une fois de plus, c'est mental. Et ça n'est que mental. Faut pas chercher autre chose. Aujourd'hui, malheureusement, je peux me tromper et je suis prêt à me flageller en direct au mois de mai si le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Paris a des joueurs de talent, mais des joueurs qui n'ont pas le mental pour aborder cette compétition. Ça peut plus être le hasard. Quand tu t'effondres après avoir gagné 4-0 au Parc des Princes, le plus beau match de l'histoire du club au niveau qualité de jeu, que t'en prends 6 à Barcelone, même si t'es pas aidé par l'arbitre, que l'année d'après tu reviens, que tu te fais balader par le Bayern, que tu te fais balader par le Real, que tu remets ça encore cette fois-ci à Liverpool, c'est plus le hasard, parce que c'est quasiment les mêmes joueurs qui ont disputé tous ces matchs-là.
Mais t'es d'accord avec moi que Thomas Tuchel est en train de changer ça.
Sont défaillants mentalement.
Il manque un type sur le terrain. Il manque un joueur sur le terrain pour changer le mental de ses coéquipiers. Il y a personne qui sort la tête de l'eau, quoi.
Mais c'est pas qu'une question.
Il suffirait d'un pour les fédérés, ouais, un aboyeur.
Buffon,
mais Buffon est dans le, ouais, mais il est dans le vestiaire, Buffon.
Parce qu'apparemment,
c'est pas que ça.
Rappelez-vous quand même tous les matchs que je viens de citer. À chaque fois, on peut pas ressortir un mec qui a été mauvais. C'est quasiment collectif. À chaque fois, c'est l'inverse. On dit à Madrid, il y avait lui qui avait été pas mal. À Barcelone, il y avait que Cavani qui s'était un peu battu, voire voilà. Donc.
C'est pas
ça
que
veut
ça,
dire qu'il y en a 10 autres qui sont passés à côté. Et à chaque match important, il y en a 10 autres qui passent à côté.
Mais sur le constat du début de saison, est-ce que avant ce match contre Naples, tu es d'accord pour dire que tu ne t'attendais absolument pas à ça?
Mais tout
t'as
à
été
fait.
T'as été
parce
surpris.
Que j'ai voulu espérer qu'avec
tout le monde. C'est pas ça qui te prépare
d'accord
pour un match
avec
des champions.
Mollo sur Amiens.
Les joueurs eux-mêmes l'ont dit. On n'a pas respecté les consignes et on ne met pas d'intensité en Ligue des Champions.
Ah bah ça, on n'a pas respecté les consignes.
C'est bien beau de parler de mental, c'est clair. Mais il y a Buffon qui est soi-disant venu pour instaurer un peu de confiance. Les joueurs, ils n'arrivent pas à mettre de l'intensité en Ligue des Champions, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas conditionnés pour cette compétition.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la facilité, un peu de suffisance?
Exactement, on se repose
sur le talent et on oublie que ça ne suffit pas.
Absolument.
Ça passe en Ligue 1 face à des clubs qui sont inférieurs.
Ils devraient savoir quand même, ils sont un peu expérimentés maintenant.
Tonton, c'est les déclarations. Moi, ce n'est pas moi qui les invente, ça. C'est les déclarations des joueurs. On ne met pas d'intensité.
Mais comment t'expliques qu'ils ne le fassent pas?
Pourquoi ils ne mettent pas d'intensité?
C'est aussi lié au mental, bien sûr. Ils ont peur des équipes. Mais Naples, je suis désolé, quand tu regardes l'effectif de Naples, c'est pas supérieur au PSG.
Non, exactement.
C'est ça justement. C'est que Paris est en train de prendre le risque de sortir de la Ligue des Champions par deux équipes qui, sur le papier, lui sont pas supérieures.
Oui, mais comme l'année dernière, t'étais pas inférieur au Real Madrid et que tu aurais pu passer.
T'avais quand même une expérience.
Oui, déjà l'expérience. Sur le papier, avant le match,
on a vu que ils étaient capables d'en passer quelques-uns à la
campagne.
Les internautes réagissent, Céline.
Ils réagissent justement. Il y a Patrick qui nous dit toutes les équipes, quand elles nous rencontrent, font, elles, leur match de l'année. Laurent nous dit l'obsession de la Ligue des Champions rend fou. La Juve est nettement supérieure à nous. Grégory nous dit avec l'équipe qu'on a, normalement, ils ont juste à se sortir les doigts. Vous savez d'où. Et normalement jouer. Oui, peut-être. Et Joanie nous dit Tourelle sera prêt pour la Ligue des Champions, mais l'année prochaine.
Oui, mais on n'a pas le temps d'attendre. Non, il n'a pas le temps d'attendre.
Au départ d'Emery, on s'était dit, OK, on laisse Tourelle faire. Exactement. C'est pas pour cette année, on le laisse taffer et ça arrivera l'an prochain.
Fait trop d'expérience. Moi, nous, on est trop impatients.
T'imagines la réaction de Nasser El-Khelaifi, tu lui dis qu'on va jouer un 16e de finale de Ligue Europa au Stade ou je sais pas où.
Un petit peu provoque, prématuré peut-être. La réaction d'Emery. Je voudrais vous la poser, cette question. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour cette saison de gagner la Ligue Europa
plutôt que de se faire éliminer dans cette compétition? T'as des équipes russes, t'as des équipes...
Non, mais pas du tout. On a toujours dominé les secondes. Nous, on est trop fort pour les secondes couteaux et trop faible pour les gros. Mais on est juste au milieu. Il y a Paris, tout seul. Mais derrière, t'as tous les autres qu'on fait. Imagine, c'est les Russes et les Ukrainiens, on se les prend tranquille. C'est après que ça se complique.
Va expliquer à Neymar et Mbappé qui vont jouer la Ligue Europa. Les mecs n'ont pas signé pour ça. Ils vont devenir dingues.
Ben, ils ont qu'à se bouger.
C'est impossible. Évidemment, ce sera aussi de leur faute. Mais si tu vas en Ligue Europa, c'est un échec monumental.
Du coup, ils seront sur le banc. Du coup, on va perdre même l'Europa League. Ça va être un carnage.
Mais là, je suis d'accord avec toi. Quand vous dites, je suis d'accord, si on va en Europa League, c'est une cata. Mais objectivement, en qualité d'équipe, on n'est pas plus forte que celles qui sont posées dans le bas-poule. On doit passer en équipe.
Ah bah la preuve, puisqu'ils ont perdu à Liverpool et qu'ils ont fait un match.
Non, mais même sur le papier, Liverpool finalise la Ligue des Champions l'année dernière. C'est une très grosse équipe. Elle en a battu plus d'un.
Leader du championnat d'Angleterre.
Voilà, leader du championnat d'Angleterre. Naples, deuxième du championnat d'Italie. Gros championnat. On ne serait pas sortir par Zagreb, Anderlecht ou Glasgow, je ne sais pas quoi. Ou même Manchester. Non, mais voilà.
Mais le problème, c'est qu'on retiendra pas la qualité des adversaires,
voilà,
on retiendra l'accident.
Voilà, mais je suis d'accord sur l'accident, ça serait terrible. Mais objectivement, ça serait pas une énorme surprise, voilà.
Bon, on est encore loin de l'accident, on est à mi-parcours dans cette poule. Il y a tout à fait moyen de se qualifier.
On n'a aucune certitude, hein.
Évidemment.
C'est aucune certitude.
On n'est pas très confiant.
Aucune certitude. Ils sont capables de gagner 2-0 comme dans.
Mais Naples aussi est dans l'obligation de gagner. Il faut aussi toujours rappeler, ils ont qu'un point de plus.
Oui, mais Naples n'a pas la même pression. Naples, s'ils sont éliminés ou ils vont en Europa League, c'est pas grave. Le PSG, s'ils y vont, c'est un gros problème quand même.
Et puis, je maintiens qu'ils ont un entraîneur qu'on a bien connu à Paris, et qui a une vraie belle expérience des matchs de Ligue des Champions, et qui avait bien monté son affaire au Parc des Princes. Je rappelle quand même que s'il n'y a pas le coup de patte magique de l'ami Di Maria, la conversation, elle est encore pire.
Ah, mais là, c'est pire. Différent.
C'est-à-dire
mais
que c'est carrément la défaite.
Des larmes
c'est
de
pas
sang.
Quand même passé très loin. Évidemment. À quelques secondes près, on était bon. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi la ramener, et il va falloir que ces joueurs-là, tous ces joueurs-là, nous prouvent qu'ils sont capables de continuer dans cette compétition, et nous prouver, c'est gagner à Naples.
Ouais. S'il vous plaît.
Encore, des choses à dire.
Surtout pas de Ligue Europa, s'il vous plaît.
C'est bon pour Marseille, c'est la Ligue Europa. Hein.
Mais
c'est
même pas. Arrêtons les bêtises. Ils ne la gagnent pas. Mais pareil, Marseille, ils se sont fait manger.
Ils sont condamnés, là, les Marseillais.
Marseille, ils se sont fait rentrer dedans par l'Atlético, comme Paris se fait rentrer dedans tous les 15 jours en Ligue des Champions face à des équipes un peu costauds.
Et si on revenait à la Ligue 1 avec c'est bien un nouveau match dans.
Faut qu'on reste en Ligue 1 toute notre vie.
Bon, pour le maintien, on est pas mal déjà là.
Ah là, on est bien.
Avec 33 points, il en faut une quarantaine.
Sur 33
ce serait bien
possible.
Malheureux quand même quand 27 journées, on ne prenne pas les 10
facile.
Points qui manquent.
Et un match passionnant qui s'annonce vendredi au Parc, puisque c'est Lille qui débarque, le deuxième du classement. Alors certes, il y a 8 points entre les deux équipes, mais les Lillois font forte impression à chaque match. Ils ont gagné que 1-0 ce week-end, mais ils ont tapé 3 fois les montants. Est-ce qu'il faut craindre le LOSC, Stéphane Bitton?
Bah non, évidemment que non.
Merci Stéphane.
Pas du tout. Mais il faut être franc. Mais non, ils sont champions de France de la deuxième place, c'est déjà pas mal. Il y a une équipe qui est devant, mais personne ne comprendrait. Après avoir fait ce que Paris a fait depuis le début de la saison, je parle là pour le coup dans l'Hexagone, bien sûr que Paris n'a rien à craindre de Lille, en prenant Lille au sérieux. Lille a des bons joueurs, mais au niveau des individualités, au niveau du jeu, au niveau de la réussite offensive et défensive, il n'y a pas photo entre les deux.
Mais ça va être une équipe joueuse, hein. Ils vont
jouer le contre quand même. Ils vont jouer le contre avec Bamba.
Ça devrait jouer.
Il faut déclarer forfait pour perdre que 3-0. Non, donc on va y aller, puis on va les battre, et puis normalement.
Stéphane a tout dit. Si le PSG joue sérieusement, ça prendra le tarif habituel au Parc des Princes, et ce sera 2, 3, voire plus d'écart. Enfin, pour moi, il n'y a aucun suspense pour vendredi, sauf si le PSG fait un non-match.
Mais on peut être curieux quand même du match des Lillois. Du jeu des Lillois.
Par rapport à Lille, c'est hyper intéressant,
exactement.
Ça je suis d'accord.
Je pense qu'il faudra le regarder sous l'angle des
Lillois.
Mais
on ne jugera pas le PSG vendredi.
Il faudra défendre au milieu, en tout cas, ça c'est sûr. Il faudra défendre au milieu parce que leur jeu de transition est quand même assez,
ils connaissent nos failles,
assez costaud.
Oui. Alors moi, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, et je trouve que c'est quand même la qualité première des Parisiens, c'est qu'ils ont un physique exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils usent tout le monde, et au mieux tu tiens une heure, au moins bien tu tiens une mi-temps, mais tu sens qu'à un moment, autour de la 55e, 60e minute, il y a un coup d'accélération physique, et ce que les équipes ont pu faire au début, elles n'arrivent pas à tenir pendant 90 minutes.
C'est l'endurance, on parle
beaucoup de la technique de ces joueurs-là, mais physiquement, ils sont exceptionnels.
Je pense à Meunier notamment, c'est un athlète assez incroyable.
Tous, à un moment, ils passent à la vitesse supérieure et personne ne peut les suivre. En tous les
cas, ils ont aussi un jeu d'usure, c'est-à-dire qu'à force de les faire courir, c'est-à-dire qu'on court quand même beaucoup moins que les autres. Donc, on est plus fort physiquement, certes, mais on a aussi un jeu qui nous permet justement de nous économiser et de les laminer petit à petit.
Généralement, les équipes joueuses apprennent tout le temps un tarif face au PSG, puisque ça laisse des espaces, et avec les joueurs qu'on a, notamment en attaque,
même les équipes qui jouent pas.
Mais Lille n'est pas une équipe joueuse. Lille, c'est pas une équipe joueuse. C'est une équipe de contre-attaque type. Non.
C'est
une équipe de contre-attaque.
Mais
ils jouent très sérieux derrière. Ils ont Bamba et Pépé qui cavale, et le petit Parisien que c'est Ikoné qui est là-bas. Voilà, ils ont 3 joueurs devant qui vont très très vite, mais c'est un jeu de transition, c'est pas une équipe qui attaque, placée, machin, non. Ils vont jouer derrière, et par contre, ils vont très vite devant.
Non, mais ce qui serait intéressant, ce serait de voir le PSG mener contre cette équipe, ça c'est vrai. Ouais. J'aimerais voir comment ils pourraient réagir après être menés. Après, est-ce que ça arrivera?
Quel schéma tactique, à votre avis, contre Lille vendredi?
4-2-3-1, le retour au 4-2-3-1 classique avec les 4 devant pour préparer Naples.
Enfin, personne n'arrive en retard à la
si personne n'arrive en retard à la... et que personne n'est blessé.
On sera vraiment dans l'optique de préparer Naples, justement. A priori, ça devrait être Buffon dans les buts cette fois.
Buffon devrait enchaîner une séquence de 3 matchs, si tout va bien. Donc on a dit Lille, Naples
et Monaco. Monaco. Derrière.
Oui, oui. Donc l'équipe qu'on devrait voir vendredi, ce sera l'équipe qui devra affronter Naples.
Surtout que Areola l'air un petit peu moins bien quand même. Hein. Je suis un peu étonné. Il était sur une pente très, très ascendante avec l'équipe de France.
Ah, hier, il nous a sauvé quand même.
Bah, hier, c'est dur à juger.
Il a fait pas mal. Mais sinon, les matchs d'avant, son jeu au pied est devenu exécrable en 3 matchs. Là, ouais. Il met tout en tribune. Je sais pas ce qui lui arrive.
Ouais, difficulté dans la relance. Mmh.
Ouais, terrible. C'est incroyable. Et il est un peu moins. Je sais pas pourquoi. Il a l'air de douter un petit peu.
On va prendre le pouls des internautes.
Alors, on a plusieurs versions par rapport à Lille. On a JC qui nous dit « Je pense que Lille peut être un adversaire redoutable ». David nous dit « Lille, même pas peur ». Patrick nous dit « Lille va faire comme toutes les équipes venant au parc, jouer en contre ». Benjamin lui explique qu'on va leur mettre 4-0, le PSG est intouchable en Ligue 1 Conforama. Samuel nous dit « Pour avoir vu le LOSC jouer, c'est l'adversaire de l'année pour le PSG ».
Alors, il y a un petit facteur en plus qu'il faut rappeler pour Lille, c'est que même s'il devrait faire tourner Christophe Galtier, il joue demain soir en Coupe de la Ligue. Ils vont à Strasbourg demain soir et la finale de la Coupe de la Ligue se joue à Lille. Donc ils n'ont pas forcément envie de la perdre tout de suite en 16e de finale.
Ils sont dispensés de ce tour-là. Donc,
malgré tout, même s'il devrait faire tourner, il y a des joueurs qui vont jouer dès mardi. Et pour Lille, qui n'a pas forcément l'habitude d'enchaîner tous les 3 jours, ça peut être aussi compliqué.
Et qui n'a pas la profondeur de banc, bien sûr.
Ceci dit, nous, on jouera à Naples 4-5 jours après Lille.
Il y a le temps, c'est vendredi, mardi. Ils ont plus que.
T'as pas envie d'être blessé, quoi.
Si tu veux bien préparer Naples, le minimum, c'est de battre Lille. Parce que si tu te déplaces à Naples, où tu dois, quasiment, on l'a dit, obtenir absolument les 3 points et la victoire. Et que t'arrives et que tu t'es fait taper au Parc des Princes par Lille.
Ce serait très étonnant que Strasbourg fasse tourner contre
Lille. Non, mais jouer un peu avec le frein à main, je veux dire, histoire d'éviter une blessure ou ce genre de choses.
Quelle importance à ce record, ça pourrait être donc la 12e victoire en 12 matchs. Jamais aucune équipe européenne n'a commencé un championnat avec une telle série. Est-ce que ça a un enjeu, ça? Ils y tiennent, les joueurs?
Je pense qu'ils y tiennent.
Non, je pense pas.
Oui, mais les records, ça passe, on les oublie. Qui savait que Tottenham, avant qu'on aille fouiller dans les archives, qui savait que Tottenham avait gagné 11 matchs en 60-61?
Non, mais ça n'intéresse que nous, ça, non pas les joueurs.
Ça, non, ça marque une vraie domination, évidemment, et ça marque aussi le fait que boycotter, le mot est trop fort, mais qu'en tous les cas, ils prennent pas à la légère le championnat. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, effectivement, ils auraient pu, une fois ou deux, concéder un match nul. On va pas aller jusqu'à perdre, mais concéder un nul. Là, maintenant, ils se font un devoir de l'emporter. C'est bien. En tous les cas, la série semble pas vouloir s'arrêter mais face à Lille.
On va pas gagner tous les matchs, vous le savez bien. Il y a bien un moment.
Pourquoi Paris peut gagner tous les matchs.
Pourquoi tu dis ça?
Pour gagner tous les matchs. Pourquoi pas?
Bah, souvenez-vous les saisons précédentes. Il y a eu quand même des accidents de parcours.
Ah ben, il y avait eu des signes avant.
Comme t'as dit, c'est des accidents de parcours.
Même cette saison à Guingamp, c'était chaud. Quand même.
Si Paris n'a pas envie de faire d'accidents de parcours, parce que en fait, c'est eux qui tiennent le truc. C'est-à-dire que si eux sont sérieux avec l'effectif qu'ils ont, avec même les jeunes qui sont derrière, qui sont de qualité, tu peux largement, la preuve, ça commence à avancer. Il y a en tous les cas 11 équipes en France qui sont déjà inclinées face à Paris, que ce soit au Parc des Princes ou à domicile.
C'est un peu comme la Coupe, parce qu'ils sont invaincus en Coupe depuis, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, on banalise, mais c'est quand même surréaliste de ne pas perdre un match de Coupe en 4 ans, je crois.
C'est incroyable. Normal,
Non, c'est jamais normal, surtout que la Coupe. Non, mais ça se rapproche un petit peu de cette invincibilité en championnat. Ils sont capables d'aller au bout, parce que match après match, ils les gagnent, quoi.
Ils seront contents s'ils font une saison sans défaite. Mais le record, là, pour eux, c'est... En fait, il n'y a pas de prestige.
Record qui compte.
La presse le rabâche. Donc, quelque part...
Non, c'est les médias. Voilà. C'est les médias qui le rabâchent. Mbappé, on lui a posé la question, il s'en fout.
Mais justement, pour revenir sur ce que tu dis, Jojo, il y a Globule qui nous dit le seul intérêt de ce record est d'ajouter un petit plus dans la motivation des joueurs et éviter un relâchement total compte tenu de leur avance.
Exactement. C'est un petit challenge entre eux.
Il faut bien qu'ils se battent contre quelque chose, de toute façon.
Surtout en Ligue 1. Et il faut être inventif pour avoir des angoisses existentielles.
Voilà pourquoi le record n'est pas si... valorisé, parce qu'il n'y a pas de concurrence finalement. Mais
comme tu l'as dit, le vrai record à aller chercher, c'est une saison invaincue.
Exactement.
Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire les 2 dernières années, qu'ils auraient pu tenter notamment la dernière année de Blanc et la première année d'Emery.
Il y a 16 victoires de suite aussi, record absolu en France.
Il y a quelques petites victoires
qui le détient. Il y a d'autres records à aller chasser.
Mais finalement, c'est des choses qu'on oublie. C'est-à-dire, ça marquera la saison.
Si tu finis une saison invaincue, là, tu rentres quand même dans les là, c'est pas mal.
Ben voilà. Mais on nous parlera la Ligue des Champions.
Arsenal en Angleterre.
C'est sûr.
Arsenal en Angleterre, on en prend quelques-uns comme ça, effectivement.
Mais une question quand même, si on bat Lille, on va encore un peu plus assommer cette Ligue 1. Ça va tuer totalement.
Tant pis. De toute façon, elle est assommée.
Elle l'est déjà.
Une équipe qui gagne ses 11 premiers matchs, elle est de toute façon, elle est assommée. Alors, même si on se fait des émotions de temps en temps, on voit pas comment le championnat pourrait.
En fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens.
Il faudrait que tout le monde arrive en retard.
Si Paris perd vendredi, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien.
Rien, aucune conséquence.
Bah donc c'est fini.
Et puis, on voit aucun club capable de rivaliser. Parce que,
non. Parce que même Lille va baisser d'un cran à un moment. La Lille est à 8 points, mais Lille, ils ont une réussite exceptionnelle. Depuis le début de saison, ils ne vont pas gagner tous leurs matchs.
Même l'entraîneur le dit, il ne croit pas à la deuxième place.
Ils savent très bien eux-mêmes qu'ils ne vont peut-être pas terminer deuxième. Donc,
on va pas inventer un faux suspect. Deux ou troisième, ils ne seront pas loin.
Je pense que Lille, c'est costaud. C'est costaud pour inquiéter le Paris Saint-Germain.
Parce que les autres sont plus faibles.
Mais dans le championnat de la deuxième place.
Oui, tout bêtement. Monaco rayé de la liste, déjà.
Je pense qu'il y a deux équipes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Or, le Paris Saint-Germain, c'est Lille et Montpellier. Ça tient la route.
Ouais, Montpellier, je ne crois pas trop.
Montpellier, je
ne
crois pas trop.
Mais qu'elle soit Marseille.
Ils ont une bonne défense. Et quand tu as une bonne défense, c'est le point de départ de pas mal de choses. Déjà,
ils ont toujours eu une bonne défense.
Ils n'ont encaissé qu'un seul but de plus.
Moi, je trouve ça super embêtant pour la Ligue 1, parce que
c'est gênant.
C'est Montpellier qui va être en Ligue des Champions.
Alors ça,
on n'est pas là, mais...
Non, mais alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, puisque quel club français mieux que Montpellier a fait quelque chose en Ligue des Champions?
Non, mais j'étais pas né, tonton, quoi. Moi, j'ai envie de parler des trucs que j'ai vécu,
compris,
tu vois.
T'as pas compris du tout ce que je veux dire.
Non, mais si, ils ont été.
Quelles que soient les équipes françaises qui vont en Ligue des Champions, aucune. Que ce soit à part le Marseille de
Monaco. Je suis plus confiant quand je vois Lyon.
Mais ils ont été
Monaco,
en demi-finale,
Paris, quoi. Montpellier.
Pas mal. Mais mieux que Lyon, 7 fois champion de France pour aller quoi? Une fois en demi-finale en battant Bordeaux.
Bah, tu sais quoi? Au moins, Lyon, rien que les matchs face au Real Madrid, les coups francs du Nino et tout, j'ai déjà les revivre.
Mais ouais, t'as les yeux qui brillent. Mais tout ça, on s'en fout puisque de toute façon, on la gagne jamais, cette Ligue des Champions. Qu'on envoie Montpellier, Amiens, le Paris Saint-Germain, Lyon ou n'importe qui, on passe toujours à côté.
Les émotions.
Mais oui, les émotions.
Même Reims.
C'est juste pour l'hymne. On y va.
C'est vrai.
Non, mais là, il y a une vraie question à se poser. Un jour, il faudra le faire, ce débat. Comment la France a pu remporter que deux Coupes d'Europe en 60 ans?
C'est ça.
Parce qu'il y a quand même un problème, là.
Ouais. Ah, parce que la semaine dernière, vous avez vu les résultats des clubs français.
Alors là,
il y a un marabout.
Conjoncturellement, c'est-à-dire depuis quelques années, c'est qu'on nous pille, on est devenu la Bulgarie de l'Europe. C'est-à-dire qu'on nous pille tous nos joueurs.
C'est presque insultant pour les Bulgares.
Non, mais regarde, on est champion du monde parce que sur les 23 joueurs, il y en a 22 qui jouent, ou 18 qui jouent à l'étranger. Hein? Donc, c'est ça aussi pourquoi on réussit pas maintenant. Alors, avant,
on réussissait pas non plus.
Voilà. Mais en tout cas, là, je pense que la raison majeure, elle est là. Mais... Si tu récupères Kanté, si tu récupères, je sais pas qui,
en 58, Coppa, il allait déjà jouer à Real Madrid, hein, il restait pas à Reims. Hein, donc c'est...
Non, mais
les départs, il y en a toujours eu.
C'était deux. Mais je suis d'accord. Non, mais là, quand même, on est pillé. Là, on est quand même pillé.
Bah, la France, c'est pas un pays de foot, tout simplement. C'est pas un pays de
foot.
Franchement, que la France défende ses couleurs en Ligue des Champions avec PSG, Montpellier et Lille, ou avec PSG, Lyon et Monaco, ou avec PSG, Amiens et Guingamp. Ça sera la même chose.
Non, mais arrête, tonton. Demain, tu vois Montpellier, Real Madrid, c'est bizarre. Je préfère voir Lyon, Real Madrid.
C'est bizarre.
Montpellier, Manchester.
Ouais, mais ça.
C'est un problème, tu vois.
Pas sa chance au produit, là. Tu
viens pas danser en Ligue des Champions.
Tu joues avec le Barça et le Real Madrid.
C'était bon.
C'était incroyable.
Il y a eu des. Non, mais c'est pas le nom de l'équipe qui fait. Tu peux avoir des très beaux matchs. Il y a eu des très beaux matchs joués par des équipes qui n'avaient pas le prestige du Real ou du Barça. Effectivement, le matin, quand tu te lèves et que tu as un Barça-Real le soir ou un Barça-Juventus ou un Real-Bayern, ça a plus de gueule.
Ouais,
ce débat, moi, je vais citer la punchline d'un rappeur qui avait dit: je me sens confiant comme si je jouais un Barça-Lorient. Voilà.
La citation de
Joss. En même temps, on en a tellement marre de jouer en cercle fermé, 5-6 équipes qui se rencontrent tout le temps, le Barça, le Real, le Bayern, etc. On a un peu marre quand même de toutes ces finales qui tournent. Autant avoir Montpellier, quoi.
Voilà, ça va changer. En tout cas, le Real, là, ça va pas fort. Hein.
Ouais.
C'est vrai.
Avec un changement d'entraîneur. Voilà pour PSG Lille. On a fait le tour. Hein.
Ah, on est bien sur PSG Lille. Ouais, il est quand même très important de le gagner, juste pour bien préparer Naples, parce que c'est quand même le tournant de la saison. Si on nous avait dit que le tournant de la saison arriverait si vite et arriverait à Naples, on l'aurait pas forcément parié. Donc finalement, tout pourrait être balayé si ça se passait pas bien.
Le PSG joue très gros là dans les prochaines semaines.
Joue très très gros.
Ouais. Je pense. Joue la saison. Il faut dire la vérité. Bah oui. La saison se joue là déjà. Hein.
Enfin, se joue à Naples.
À Naples, ouais.
On espère qu'elle se jouera aussi en mars-avril, hein, mais...
On espère. C'est pas une punchline de rappeur, mais voir Naples et mourir, va falloir l'éviter, celle-là.
Ça, ce sera donc le 6 novembre avec Bruno Salomon, qui reviendra lundi pour Tribune PSG, d'ailleurs.
Salut, Bruno.
Petit message
vacances,
Bruno.
Vacances, on
les vacances, et un petit Bruno, peu de repos.
Si
et puis Bruno qui continue quand même de travailler en vacances, puisqu'il a calé un invité de marque pour lundi prochain. Olivier Chouafny, l'entraîneur des filles du PSG qui sera avec nous dans Tribune pour parler de la Ligue des Champions de Naples, mais aussi des filles qui devraient, sauf cataclysme, se qualifier cette semaine pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Elles jouent les Suédoises de comment on dit Manu déjà? Linköping?
Ça c'est un milieu japonais ça.
Linköping. 2-0 au match aller, ça devrait passer. Le match c'est mercredi soir et Olivier Échouafny sera avec nous pour en parler donc lundi prochain, même heure, même endroit dans Tribune avec Bruno. On va tous vous remercier. Merci beaucoup Sébastien Nieto du Parisien.
Pas de problème, il n'y a toujours pas de quiz parce qu'avec Joss on a vraiment trop gagné.
Non, vous nous avez saoulés depuis le début de saison, on l'a fait deux fois, on le fait plus, bravo.
Mais c'est toujours les mêmes qui gagnaient. C'est
ça.
C'était un peu difficile, Joss.
Ben super, merci.
La dernière vidéo qui parle de Naples.
Ouais, qui parle de Naples.
Sur la chaîne YouTube.
On a une vidéo qui sort dans quelques minutes où j'ai fait la review des pires tweets sur OMPSG. Et les supporters marseillais, ils sont assez virulents.
Donc c'est sur le compte Joss, J-O-2-S.
Sur YouTube.
Sur YouTube. Joël Spindel, merci.
Merci
d'être venu. À très vite.
À très vite.
Dans Tribune. Moi, je vais. Et derrière la console.
Pour pas voir le. Parce que je vais trembler pour Naples PSG, donc je pars au Japon. Comme ça, je veux pas connaître le résultat, je veux rien voir et je serai mieux.
Mais
comme
ouais,
ça.
T'as combien d'heures de décalage là?
Ah, je sais, 10 heures, 8 heures.
Oh, mais l'angoisse. Ouais. On t'enverra des SMS, t'inquiète.
Ouais, dites-moi. Que si on gagne. Hein.
Spoil. Émilie Ross, merci beaucoup.
C'était un plaisir.
Des internautes.
Et
de
merci
Tribune.
À tous les internautes qui nous envoient tout le temps plein de messages. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est un vrai kiff. Merci
surtout
beaucoup.
Surtout aux Tahitiens.
Ah ouais, ouais.
Et invitez-nous surtout.
Parce que bizarre, ils nous disent où ils sont, mais ils nous invitent pas, hein, quand même.
Tonton Steph, on parle de quoi demain à 8h10 sur France Bleu Paris?
C'est une très bonne question, je sais pas encore, mais vous inquiétez pas, on parlera.
J'ai le temps.
Voilà. On sait, avec le Paris Saint-Germain, l'actu va tellement vite qu'il faut attendre le dernier moment pour être sûr de bien couvrir l'actu.
C'est le plus beau teasing que t'aies jamais fait.
Ici, c'est France Bleu Paris, c'est à 8h10 sur France Bleu Paris, 107.1 FM demain matin. Merci Stéphane Bitton de foot123.fr. Merci à tous. Chloé Azinco à la technique, Emmanuel Collardet et Bruno Salomon qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tribune PSG est à revoir bien sûr.
Et big up pour le paper, on a eu le plus beau paper depuis le début de la saison. Bruno,
c'est extrêmement bien écrit.
Ah ouais, c'est magnifique.
Je sais que tu as pris des notes.
C'est Nico. Et donc bravo Nico.
C'est plus le truc brouillon caca.
Là c'est propre, c'est clair.
C'est Bruno si tu le regardes.
On sait où on va. Merci.
Pour Bruno, il donne tout avec Manu, il dessine hyper bien tous les deux. Et là,
bonnes vacances Bruno. Et si vous avez raté le début de l'émission, c'est à voir en podcast. Merci, c'était Tribune PSG. Merci à tous. Allez Paris, très belle semaine. Ciao, ciao.
Salut à tous.
Ciao.